Donc, bonjour. Bienvenue à cette conférence organisée par la FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers d'aide à la personne. Nous vous parlons aujourd'hui de télémédecine et de domicile, donc la télémédecine au service du maintien à domicile. Mais on entendra domicile dans une acception large comme lieu habituel de vie de la personne, donc ce qui inclura également l'EHPAD, entre autres. Pour vous parler de cette thématique aujourd'hui, donc trois intervenants de choc. Donc, tout d'abord, le docteur Catherine Réa, qui est médecin conseiller à la FEHAP. Jean-François Gobelin, qui est notre conseiller national système d'information à la FEHAP également, et Monsieur Aubouin, qui est directeur général de la mutualité Isère, qui est gestionnaire de 20 établissements pour personnes âgées dépendantes et pour personnes en situation de handicap en Isère, donc qui est également adhérent donc chez nous à la FEHAP. Quelques mots peut-être pour débuter pour vous présenter un petit peu qui on est. Donc la FEHAP, comme je le disais tout à l'heure, donc est une fédération d'établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Nous rassemblons plus de 4000 structures dans le champ dans les champs sanitaires, social et médico-social. Donc ça passe par les hôpitaux, les crèches, les maisons de retraite et toute la gamme des services de maintien à domicile à destination des publics vulnérables essentiellement. Nous représentons donc plus de 200 000 salariés, c'est plus de 2,5 millions d'usagers, de bénéficiaires qui sont accompagnés au quotidien par nos structures. Donc voilà, pour vous placer un petit peu la FEHAP. Donc sans tarder, je passe la parole au docteur Catherine Réa, qui va vous poser un petit peu le cadre juridique de la télémédecine, les différents modes de recours, les enjeux, et pour quel projet, à quel projet est-ce que la télémédecine peut répondre.
Merci Tartini. Bonjour mesdames, messieurs. Donc nous avons souhaité vous présenter un peu la télémédecine dans un espace comme ce salon, où on va aborder effectivement des aspects un petit peu théoriques et pratiques, et puis on aura la chance, vous aurez la chance d'avoir en vraie vie, en pratique, comment on met en œuvre. Alors la télémédecine, c'est pas nouveau, mais ça a été mis dans un cadre juridique depuis la loi HPST et qui, dans un décret de 2010, a défini quelles étaient les différentes modalités de télémédecine. Télémédecine, c'est un mot générique, mais derrière, on a plusieurs termes que je vais un petit peu vous détailler en termes pratico-pratiques. Donc il y a la téléconsultation. C'est la consultation à distance d'un patient, et je vais vous le détailler un peu plus après. Il y a la téléexpertise, c'est quand un professionnel de santé veut avoir des avis avec d'autres professionnels de santé. La télésurveillance médicale, c'est un professionnel de santé qui va interpréter des données du patient dans le cadre de sa surveillance. La téléassistance médicale, là c'est un professionnel de santé qui va assister à distance un autre professionnel de santé. Ça existait un petit peu déjà avant qu'on mette un cadre, hein. Notamment les militaires et les marins connaissaient bien cette téléassistance, puisque vous savez que parfois il n'y a pas d'autre solution que d'intervenir sur place sans forcément qu'on ait le bon professionnel. Alors, quand on va un peu plus dans le détail, la téléconsultation, quand on l'imagine, sur place on a quoi? On a un patient, un professionnel de santé, et à distance on va avoir un autre professionnel de santé. Quand on fait de la téléconsultation, on est en direct. On se cause à travers un écran, mais on se voit et on se cause, et on voit le patient. Et puis, derrière, c'est une vraie consultation qui est réalisée par un vrai professionnel. La seule chose, c'est qu'il n'est pas en présentiel. Voilà, donc la téléconsultation, c'est ça, et je vous donnerai tout à l'heure déjà plein d'exemples qui sont mis en place et qui marchent très bien. La téléexpertise, c'est un professionnel qui va avoir besoin de l'avis de pair ou d'équipe. C'est par exemple un professionnel du domicile ou dans un EHPAD qui va avoir besoin de présenter un dossier qui pose souci à une équipe qui va être par exemple dans un centre hospitalier. Donc là, c'est pareil, on est en direct, c'est de la visioconférence. Chacun est derrière un écran, on se cause, hein, c'est comme à la télé mais en direct. C'est comme Skype, hein, pour ceux qui utilisent ces modalités, c'est exactement la même chose. Et là, on demande un avis d'expert. La télésurveillance médicale, là on a le patient forcément, éventuellement un professionnel de santé, et c'est, de l'autre côté, un professionnel médical qui va interpréter des données de surveillance, des surveillances cliniques ou biologiques, puisque aujourd'hui on peut même surveiller à distance certains éléments biologiques. Ça peut être fait en direct, mais c'est le plus souvent fait en différé, et ça va permettre de suivre le patient sans que le patient se déplace. La téléassistance médicale, c'est encore une autre modalité. Là, on a un patient, un professionnel de santé. De l'autre côté, on a un professionnel médical. Et là, on gère en direct. Alors, on gère en direct de la chirurgie, on gère en direct de l'échographie, on gère en direct un certain nombre d'actes techniques. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de ce que peuvent faire les militaires depuis déjà très longtemps ou dans les bateaux. Alors évidemment, qui dit télémédecine, qui dit développement de télémédecine, dit quand même respect d'un certain nombre de règles, et notamment du droit des patients. Il faut effectivement que le patient donne son accord. Alors vous savez, il y a la formule magique, consentement libre et éclairé de la personne. C'est pas toujours aussi simple que ça quand on est avec des publics âgés, donc ça se travaille. On échange de l'information entre professionnels, ça veut dire donc système d'information sécurisé, et Jean-François Gauguelin vous en parlera tout à l'heure. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis il y a des conditions qui sont des vraies conditions de sécurité réglementaire sur l'authentification des professionnels, l'identification du patient, l'accès des professionnels aux données de santé du patient. Et vous savez qu'il y a tout le débat aujourd'hui, qui a accès et à quelles données. Et ça fait partie d'ailleurs d'un article de la loi, de la future loi de santé publique qui est portée par Marisol Touraine. Qui dit consultation, expertise, dit forcément traçabilité dans un dossier, donc ça semble classique, mais quand on est en mode télé-expertise, téléconsultation, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'en présentiel. Et puis après, si un jour on imagine qu'il y aura, parce qu'il y aura de la facturation, il faut bien de la traçabilité, de l'identification, de l'heure, du jour, etc. Donc il y a un certain nombre de conditions à remplir. On ne fait pas n'importe quoi. Alors depuis la loi HPST qui a voulu mettre un accent fort sur le développement de la télémédecine, il a été affiché les enjeux et le cadrage national. Donc les enjeux, c'est l'équité dans l'accès aux soins, notamment là où on est loin pour des interventions rapides. C'est par exemple, je fais un accident vasculaire cérébral, j'ai une imagerie immédiatement et la question se pose, faut-il ou pas envoyer dans un autre centre plus performant ou pas. Donc on va gagner du temps avec de la télétransmission d'images par exemple. Ça peut être aussi l'occasion, la télémédecine, de maintenir une offre de recours de spécialistes. Il n'y a pas toutes les spécialités dans tous les territoires et pourtant on fait de la téléconsultation à distance, de cardiologie par exemple. C'est aussi un moyen d'améliorer la prévention et la qualité de vie, notamment sur la maladie chronique. Si on fait de la télésurveillance à domicile et qu'on anticipe les risques de décompensation, eh bien, c'est d'autant mieux pour les patients. Et c'est très développé chez les diabétiques, chez les insuffisants cardiaques, chez les dialysés, je vous en parlerai tout à l'heure. Ça permet évidemment, dès lors qu'on anticipe, de réduire ce qu'on appelle les hospitalisations évitables. Et puis évidemment, on va réduire des transports. Mais ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, on en est à essayer de passer d'un mode expérimental à un mode de déploiement. Et un certain nombre de projets dans les régions ont été rendus éligibles sur la base de candidatures à partir d'un cahier des charges. Et on va voir ce que ça donne. Hein. C'est des expérimentations qui sont parties. Il faut harmoniser les outils et les pratiques en fonction du projet. On est toujours avec un projet et l'outil correspondant. Ce n'est pas l'outil. Et je pense que Jean-François en reparlera tout à l'heure. On n'achète pas quelque chose pour faire de la télémédecine, on fait d'abord un projet, on voit ce qu'on veut faire et après on regarde quels sont les outils qui vont permettre de mettre en œuvre. Il faut évaluer évidemment de façon médicale et sur le plan économique. c'est un enjeu du décloisonnement du sanitaire, du médico-social et aussi du social au bout du compte, parce que beaucoup de personnes, avec les objets connectés, avec la télésurveillance à domicile, sont chez eux et sont environnées et pris en charge par des personnes qui sont aujourd'hui dans le domaine social, puisque nous, en France, on découpe tout. Et puis, il y a quand même un problème de responsabilité qu'il ne faut pas ignorer et il faut les clarifier. Alors, les priorités du cadre national, au départ, c'était on fait de l'imagerie, on transfère des images et on réalise un acte d'imagerie et c'est interprété ailleurs. Avant que les lois HPST et les décrets se penchent sur la télémédecine, il y avait même des transferts d'images avec des interprétations dans des pays comme l'Inde, la Chine, etc. Le législateur français a dit « oulala, quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi », donc a repréciser qu'il fallait que ça soit dans un cadre. On n'en voit pas aujourd'hui en France des images à interpréter en Chine ou en Inde. Ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas bien fait, mais si on veut téléphoner et avoir le dialogue direct, quand même, c'est un peu compliqué. Donc, dans les priorités, il y avait la prise en charge des AVC, puisque si on prend très rapidement certains AVC qui peuvent être éligibles à une certaine thérapeutique, il faut respecter un délai de 3 heures, et donc il faut pouvoir faire l'imagerie rapidement, qu'elle soit lue rapidement par un professionnel compétent qui va décider ou pas de la thérapeutique. La santé des détenus, parce que ça peut paraître paradoxal, mais les détenus, quand ils sont malades et qu'ils vont en consultation, eh bien, ça mobilise énormément de personnes, puisqu'on ne déplace pas un détenu tout seul avec un accompagnement, c'est deux accompagnements, parfois c'est plus, et vous savez que d'ailleurs, de temps en temps, ça pose des soucis de conditions d'accueil et de conditions de surveillance. La prise en charge des maladies chroniques, je vous en ai un petit peu parlé. Et puis évidemment, le gros enjeu aujourd'hui, c'est l'accès aux structures médico-sociales et dans le cadre de l'HAD. Alors je vais aller vite un peu là-dessus parce que je vais vous en reparler. Donc je vous ai dit, la télémédecine, c'est d'abord un projet. C'est quoi mon besoin ? Et une fois que j'ai identifié mon besoin, il faut que j'aille chercher le répondant. Et là, il faut prendre son bâton de maréchal et aller voir quels sont les professionnels qui vont être d'accord d'accepter de monter le projet, qui vont être d'accord de prendre du temps pour le construire et qui vont être d'accord de modifier leurs pratiques professionnelles pour réserver un créneau de télémédecine. Parce que ça prend du temps, ça s'organise, c'est super, il faut le développer, mais ce n'est pas forcément évident, notamment dans les zones où la démographie médicale est très contrainte. Il faut construire des procédures, donc il faut voir toute la chaîne. Et puis, il faut former des professionnels, puisqu'on n'a pas forcément auprès du patient un médecin. Ça peut très bien, et c'est tout à fait légitime, que ça soit un autre professionnel dans certains cas. Informer les patients, c'est presque le plus facile. Alors, dans les exemples qui existent déjà aujourd'hui, on a la télé-expertise en gériatrie. Je suis un gériatre dans un EHPAD ou un médecin coordonnateur dans un EHPAD, ou je suis un médecin coordonnateur en HAD, j'ai besoin d'un avis. Eh bien, je me connecte en visioconférence avec une équipe d'un service compétent. La téléconsultation, ça existe en cardiologie, ça existe en orthopédie. Je suis chirurgien, j'ai opéré Madame Martin, je lui ai posé une prothèse de hanche, elle est en EHPAD. Je vais la revoir un certain temps après l'intervention pour voir si elle marche bien, si elle n'a pas de douleur, si les angles que l'on a imaginés après la chirurgie sont corrects, etc. Est-ce qu'on est toujours obligé de mettre Madame Martin dans l'ambulance qui va aller voir le chirurgien, qui va constater des choses ? Non, on peut très bien, et ça marche très bien, la laisser dans son EHPAD, avoir le professionnel à côté qui va la mobiliser, qui va la faire marcher, le chirurgien à côté, il va poser des questions à la dame, il va poser des questions au professionnel, il va voir marcher Madame Martin, et elle n'aura pas eu besoin d'aller en ambulance à l'hôpital, attendre sur un brancard qu'on regarde ce qu'il en est. Donc la consultation post-orthopédique, ça se développe, et c'est un vrai plus. La cardiologie, aujourd'hui, avec les outils, et Jean-François va vous en parler, on peut tout faire. On peut faire l'électrocardiogramme en direct. Bon, ça, c'était déjà classique, on pouvait faxer. On peut écouter le cœur en direct. On ne peut pas vous faire de démonstration, là, mais c'est encore mieux qu'en vrai, parce que c'est un peu amplifié. On met le stéto sur le cœur de Madame Martin. Donc, je vais mettre... ou sur Monsieur Dupont. Donc, je vais mettre mon stéto sur le cœur de Monsieur Dupont. Et vous, vous êtes à 100 km et vous allez entendre exactement la même chose que moi. Donc, évidemment, c'est quand même très intéressant. On peut aussi faire de l'échographie à distance. Ça, c'est plus sur de la téléassistance. Voilà. Sur les plaies chroniques, c'est très développé. C'était déjà développé avec les smartphones. Les dermatologues, quand ils avaient besoin, ils faisaient déjà des photos de la petite lésion et puis ils l'envoyaient à leurs copains pour voir si ils avaient des idées, pour savoir s'il fallait enlever ou pas. Eh bien là, il y a des réseaux qui se sont développés sur les plaies chroniques, qui permettent que l'infirmière avec une caméra vienne zoomer sur la plaie et en face quelqu'un qui va dire voilà, il faut faire telle et telle chose. La psychiatrie, alors ça peut vous paraître bizarre, mais oui, ça marche. Sur certains types de patients, dès lors que le patient a déjà été pris en charge et dès lors qu'on est dans le suivi, sur certains types de patients, c'est, tout ça, ça se construit. La dentisterie, ça peut vous étonner, mais c'est super bien. On met une petite caméra dans la bouche et on voit encore mieux qu'en vrai s'il y a des lésions de caries, si c'est du détartrage, etc. Donc ça permet de donner des conseils aux professionnels, par exemple dans un EHPAD ou dans une structure pour handicapés, et de n'envoyer chez le dentiste que ceux pour lesquels il faudra un petit plateau technique. Alors tout ça, ça peut évidemment paraître un petit peu bizarre, mais ça se fait très bien. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'un des enjeux, c'est de la prévention, parce qu'évidemment, avant, on ne le faisait pas, donc on allait chez le dentiste seulement pour se faire arracher des dents. Quand on est âgé ou handicapé, les soins dentaires, on sait que c'est un vrai sujet, il n'y a pas que les soins dentaires. En général, on y va pour se faire arracher toutes les dents. Les soins conservateurs, en EHPAD et chez le handicap, c'est compliqué. L'imagerie, je vous en ai parlé. Alors, la télésurveillance cardiologique, ben, vous avez vos petits appareils connectés qui vont vous prendre votre pouls, votre tension, vous vous pesez. Tout ça est transmis à des personnes qui vont surveiller, qui vont vous dire « Oh là là, vous avez pris du poids, votre cœur bat trop rapidement » ou « Vous avez un podomètre au bout des pieds ou votre bracelet, vous n'avez pas assez marché aujourd'hui, c'est pas bien » ou au contraire, « Vous êtes essoufflé peut-être ». Donc, vous voyez, il y a des conseils qui peuvent être donnés. Sur la dialyse, c'est pareil. Il y a aujourd'hui des possibilités de surveillance très importantes en dialyse qui évitent aux personnes de se déplacer. Et puis la téléassistance, je vous en ai parlé. Alors les financements, je vais aller vite. Il y a eu un article 36 dans la loi de financement de 2014. On a en France décidé qu'on expérimentait sur la base de cahier des charges. Il y a des projets qui ont été retenus et qui vont être financés par l'intermédiaire d'une enveloppe spécifique qui est fléchée dans une enveloppe des ARS qui s'appelle le Fonds d'intervention régionale. Et puis, il y aura des évaluations par la HAS. Les coûts, il y a une étude de coûts en cours. Il faudra former les professionnels. Il faut travailler sur les coopérations entre les professionnels, notamment sur la partie responsabilité. Il faut en tenir compte du temps passé, mais c'est du temps passé à la place d'autres temps. Et puis, il y a tout le problème de sécurisation des données. Jean-François en parlera. Alors, pour vous donner envie, avant que Jean-François vous dise les vrais outils, comment on fait, ben, vous voyez, là, on a une petite visio, une station de visioconférence. On a un chariot mobile avec un ordinateur. La personne que vous voyez au milieu, c'est le spécialiste. Et puis, on montre en même temps une plaie cutanée. On peut faire de la visioconférence en direct. D'un côté, il y a une équipe. De l'autre côté, il y a un médecin. Et il se cause et il gère le souci. Voilà, je vous remercie.
Merci Catherine.
Alors à toi.
Donc, maintenant qu'on a bien compris, qu'on a bien cadré compris de quoi on parlait, cadré ce sujet de la télémédecine, ce qu'on peut faire et en filigrane ce qu'on ne peut pas faire, on passe la parole maintenant à Jean-François Gobelin qui va vous expliquer en pratique comment est-ce que ça se passe, quels sont les outils pour mettre en œuvre cette télémédecine.
Bon, alors bonjour et merci d'être parmi nous d'abord, hein, bien sûr. Alors, moi j'ai trouvé ça épatant, parce que quand on voit tout ce qu'on peut faire avec ça, on se dit c'est absolument magnifique, et évidemment on a envie d'y aller. Alors le problème après, c'est finalement, quels sont les pièges de tout ça? Est-ce que ça marche si bien? Et on va voir qu'évidemment, quand on passe de la théorie triomphante à la réalité balbutiante, évidemment il y a quelques petits écarts. Alors, la télémédecine en pratique, c'est quoi? Alors, une illustration ici, vous voyez, je vous ai fait un petit schéma, on peut imaginer qu'on a un EHPAD qui va communiquer avec tout un ensemble de sites, vis-à-vis de tout un ensemble de spécialités, sachant par ailleurs, bien évidemment, il faut aussi intégrer le domicile dans tout ça. Alors, ce que disait Catherine tout à l'heure n'est pas du tout anecdotique, c'est-à-dire qu'on voit encore trop souvent des gens qui héritent ou achètent des stations de télémédecine, et puis après, ils se demandent ce qu'ils vont faire avec ça. Alors là, c'est un fonctionnement complètement à l'envers. Donc, première chose, d'abord, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que je fais en matière de télémédecine? On va voir que c'est complètement déterminant sur les caractéristiques techniques de votre système. Et puis, la deuxième chose, c'est que, ben, en fait, il y a tout un ensemble de processus qu'il va falloir décrire et sur lesquels il va falloir s'investiguer. Donc, typiquement, quand il s'agit d'un EHPAD, c'est un petit peu différent si on est au domicile, évidemment, mais puisqu'on va demander une expertise à l'extérieur, ben, il va falloir prescrire une session. Après, ben, cette session elle va être regardée par quelqu'un Ce quelqu'un est-il disponible? Pas forcément, donc il faudra peut-être prendre rendez-vous, ça paraît bête. Ensuite, il faudra préparer la session, il y a peut-être des mesures qui vont être faites, réalisées, pour ensuite être transmises une fois que le spécialiste va être là. La session va être en l'occurrence réalisée avec probablement une équipe qui peut être le cas échéant pluridisciplinaire. Et puis à la fin, évidemment, il va y avoir une trace de tout ça qui va être récupérée, historisée et sans doute et certainement même déposée dans le dossier du patient. Donc si on regarde le schéma de principe, c'est très simple quelque part. Il y a un requérant et puis il y a un répondant et puis il y a un réseau au milieu de tout ça. Jusque-là, ça va. Après, ça devient plus compliqué parce que, en l'occurrence, il y a 8 questions qu'il faut absolument se poser pour éviter les principaux pièges, on va dire, de la mise en place d'un système de télémédecine. On va les balayer un par un, vous allez voir, mais évidemment, la première chose, c'est de définir précisément le besoin et l'utilisation. La deuxième chose, on va voir qu'il y a, deux écoles qui s'affrontent régulièrement en matière de télémédecine. Il y a ceux qui sont partisans d'avoir des stations fixes et ceux qui disent non, c'est la mobilité. Et alors ça, point de salut. Et c'est assez étonnant de voir ça sur le terrain parce qu'en général, les avis sont extrêmement tranchés et il n'y a pas vraiment... On trouve rarement les deux. Voilà. Bon, alors, une fois qu'on a tranché, il faut s'acheter les fameuses stations. Alors, on va voir qu'elles peuvent être assez différentes. Après, bien évidemment, on va faire des mesures sur notre citoyen usager patient. Donc, il va falloir avoir des capteurs, bien évidemment. Une fois qu'on va avoir les mesures, il faudra les transmettre. Donc, il va nous falloir, bien sûr, un réseau. Et puis, cette observation, il va falloir certainement pouvoir la confronter peut-être à d'autres choses. Et puis, surtout, déposer ses résultats dans un certain nombre de logiciels. On va voir lesquels. L'une des grandes difficultés, malheureusement, encore aujourd'hui en matière de télémédecine, et ça ne va faire que s'accentuer avec l'irruption des objets connectés, c'est l'interopérabilité. On va voir que faire communiquer tout ça est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Et puis, bien évidemment, il y a un volet sécurité, puisque, bien sûr, on manipule des données personnelles et souvent médicales. Voilà. Alors, première chose, définir précisément le besoin et l'utilisation. Je ne reviens pas sur le tableau que vous a présenté Catherine. Évidemment, en fonction de ce que vous allez faire, vous imaginez bien que ça va changer. Ensuite, bien évidemment, si vous dites « je vais faire de la télé-expertise », etc., suivant que vous allez examiner une plaie au domicile du patient ou que vous allez apporter une expertise en matière de reconstruction, par exemple, d'image suite, je ne sais pas quoi, moi, une mammographie ou une radio particulière pour détecter un cancer, il est évident que ça paraît bête, mais on va voir que la définition de l'écran et les caractéristiques du système n'ont absolument rien à voir. Sinon, vous ne verrez rien et vous ne rendrez pas service à vos patients. Donc, clairement, le besoin, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de la téléconsultation, c'est de la télésurveillance, de la téléassistance, bref, qu'est-ce que vous allez faire? Et pour quel type de spécialité, quel type d'usage? C'est tout à fait déterminant dès le départ et il faut le choisir dès le départ. Sinon, le système n'est pas forcément le même et évidemment les investissements ne sont pas du tout nécessairement les mêmes non plus. Deuxième chose, alors Catherine vous précisait qu'effectivement on peut être fixe ou mobile. Sauf que ce qu'on oublie généralement c'est qui est fixe et qui est mobile. Alors première chose, le patient peut être mobile. D'ailleurs, je crois qu'historiquement, enfin, si je ne me trompe pas, mais je parle sous couvert de Catherine, je crois qu'une des premières opérations véritablement de télémédecine médiatisée, ça avait été il y a quelques années, quand un marin avait reçu la bombe dans la figure dans une course transocéanique et que le docteur Chauve de Brest lui avait expliqué comment recoudre sa langue et que le pauvre garçon l'avait fait, enfin, dans des circonstances épouvantables, il faut même le dire, mais il avait quand même été sauvé, c'est bien ça ? Voilà. Bon, donc là, on voyait bien que le patient, il était mobile. Enfin, en situation de mobilité, c'est évident. Il est clair aussi, vous le savez bien, qu'on équipe de plus en plus d'engins, que ce soit des hélicoptères ou des plateformes du SAMU, notamment, avec des dispositifs. Donc là aussi, il y a des situations de mobilité. Alors, ces situations de mobilité, elles sont importantes à prendre en compte parce que vous savez bien, enfin, l'expérience d'utiliser son portable au quotidien montre bien que il y a des endroits où ça ne capte pas. Même moi, dans ma belle Bretagne natale, des fois, il y a des endroits où ça ne capte pas du tout. Et puis même, il y a des endroits où on n'a pas la fibre non plus. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de réseau. Alors, de là à faire de la télémédecine, ça pose quelques petits problèmes. Donc, deux écoles, le fixe et le mobile. Alors, le fixe, ça peut être quoi? En l'occurrence, il peut y avoir un établissement de santé. On va être, par exemple, dans un EHPAD, ou alors on est au domicile du patient, par exemple. Il peut y avoir aussi des structures publiques. Parce qu'il y a des projets actuellement, vous en avez peut-être entendu parler, de mairies ou d'autres qui veulent mettre des cabines de télémédecine ou font des expérimentations en ce sens. On verra ce que ça donne. À partir de là, puisque le lieu est fixe, soit vous avez une salle qui est complètement dédiée, qui va être par exemple équipée avec dedans une station et puis qui va avoir certaines caractéristiques. Soit vous pouvez mettre une cabine, donc tout équipée. Hein. Donc la cabine, vous la voyez d'ailleurs, elle est tout en bas à droite. D'ailleurs, je crois qu'il y a un fournisseur ici dans l'assemblée ou pas très loin. Soit vous allez être donc en situation de mobilité et donc vous allez dire, c'est deux écoles. Hein. Si la plateforme est fixe, en clair, si votre patient a un problème, il faudra l'emmener dans la salle. Si la plateforme est mobile, en gros, c'est vous qui irez avec votre appareillage là où se trouve le patient. Alors typiquement, évidemment, quand il y a des chutes ou autres, ben, ça peut avoir un intérêt que d'aller exactement où se trouve la personne. Mais là encore, les écoles s'affrontent. Donc si on est mobile, ça peut être un chariot. Donc, vous voyez, je vous en ai mis un exemple à côté de l'hélicoptère. Ça peut être une valise ou une mallette dans laquelle il y a tout l'équipement. Donc le personnel prend la mallette, se pose à côté du patient et puis l'utilise. Alors, évidemment, on voit aussi de plus en plus d'outils divers et variés connectés sur des tablettes ou sur des smartphones, d'ailleurs, ou de plus en plus aussi, on voit émerger des hubs pour objets connectés qui permettent de récupérer tout un ensemble de choses. Ça, c'était le premier point. Une fois que vous avez choisi, sachant que tout le monde peut aussi être mobile, hein, bien sûr, quelle est la station que vous allez acheter ? Alors, cette station, il y a un truc bête, mais c'est qu'elle peut avoir plusieurs écrans. D'ailleurs, en général, elle a plusieurs écrans. Mais est-ce qu'elle en a deux, trois, quatre ou parfois même plus, ça arrive, il va falloir le déterminer. Alors pourquoi il peut y en avoir plus? Dans l'exemple que vous montrez tout à l'heure, Catherine, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait que c'était une plaie, c'est ça, qui était filmé avec une caméra main. Donc en fait, il y a toujours un retour de ce qui est filmé sur un écran. Donc déjà, vous voyez ce que vous filmez qui part vers l'expert. Première chose. Deuxième chose, il y a une caméra qui vous filme pour que le dialogue avec votre médecin puisse être aussi tout à fait convivial. Et donc, vous voyez le médecin, mais vous pouvez vous voir aussi. Et parfois, il y a aussi un troisième écran dans lequel on voit le dossier du patient. Et puis, parfois, il y a encore d'autres choses. Bon, voilà. Donc, vous voyez, là encore, on en revient au début. En fonction de ce que vous voulez faire, de l'usage et de la spécialité, eh bien, de fait, vous n'aurez pas forcément le même nombre d'écrans. Paraît bête, mais première chose. Je reviens aussi sur la définition de l'écran, parce que ça, c'est un piège dans lequel beaucoup se trompent. On fournit des stations. Alors parfois, on se dit, oh, la télémédecine, c'est cher, c'est hors de prix pour moi. Ben oui, mais si vous avez juste un besoin de dialoguer un petit peu, de regarder des images en basse définition, ben, du Skype, à la limite, suffit, hein, comme on disait. Et le bon vieux truc, pas très recommandable quand même, hein, mais de prendre des photos avec l'iPhone et les envoyer de façon plus ou moins sécurisée ou anonymisée à un autre médecin, on sait que ça existe toute la journée. Maintenant, si on veut aller plus loin, il est clair qu'il faut une définition qui soit tout à fait adaptée. Tout à l'heure, on parlait d'écouter les battements de cœur. Ben oui, mais ça suppose aussi que vous avez une qualité de son absolument irréprochable, paraît bête. Donc, de fait, si vous voulez faire ce genre de choses, pour qu'il y ait une véritable fidélité et que la personne qui est à 100 km entende exactement ce que vous êtes en train de mesurer, ben, il faut que vous ayez quasiment une station Hi-Fi dans votre dispositif. Alors au passage, les retours, vous savez, du projet Télégéria qui a été mené à Georges Pompidou avec tout un ensemble d'EHPAD autour, révélaient aussi que, quelque part, lors de la consultation, le fait d'avoir un son impeccable milite pour avoir, je dirais, créer de la confiance entre le patient, surtout s'il est âgé, et la personne distante. Au passage, je cite une anecdote que nous avait rapportée un de nos adhérents, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, les personnes âgées n'ont pas du tout peur, en fait, de la télémédecine et des stations, à telle enseigne qu'on a un établissement un peu pilote qui s'appelle l'hôpital des Magnolias. À la fin d'une session, une personne très âgée avait été tellement contente de ce qui s'était passé qu'elle s'est levée et elle s'est avancée vers l'écran pour serrer la main du praticien qui l'avait aidée. Voyez ? Donc, il faut absolument démystifier ces technologies qui parfois font peur. Alors, bon, maintenant on a la station, c'est bien, mais enfin, quelque part, on veut mesurer un certain nombre de paramètres. Alors, quels sont-ils? Alors là, il va falloir faire votre marché. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses, hein, des dispositifs médicaux divers et variés, entre les électrocardiogrammes, les échographes, la caméra, le spiromètre, j'en passe, et toute la panoplie des objets connectés. Donc là, vous avez véritablement beaucoup de choses que vous pouvez utiliser, avec là, pour le coup, une vraie difficulté sur laquelle on va revenir, qui est la capacité de réellement les connecter sur votre station. Parce qu'aujourd'hui, les différents appareils ne sont pas tous connectables sur les mêmes stations et ne parlent pas tous, on va dire ensemble, ni les logiciels qui les exploitent. Et là, il y a une difficulté et il y a des projets qui restent scotchés à cause de ça. Ah, le réseau. On se dit toujours, ça va marcher, j'ai une ligne, etc. Pas du tout. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, en fonction de l'endroit où vous allez vous situer, éventuellement, vous n'aurez pas de réseau. Donc, vous voulez faire de la télémédecine, mais il n'y a pas de ligne pour vous. Ou pas la ligne qui vous conviendrait. Je rappelle aussi que ça paraît bête, hein, mais dans un réseau, il y a des flux qui passent dans les deux sens. Donc, il faut toujours demander à son fournisseur si les débits sont garantis dans les deux sens. Parce que parfois, ce n'est pas le cas. Et on a de très mauvaises surprises. Donc, un, êtes-vous éligible pour avoir le réseau dont vous avez besoin? Deux, qui va vous le fournir? Et trois, évidemment, il faut calculer et déterminer le débit. Ce n'est pas toujours évident. Mais j'en reviens à ce qu'on disait dès le départ, c'est que l'usage va avoir été déterminé dès l'origine du projet. Puisque l'usage va déterminer effectivement le débit dont vous avez besoin. Voilà. Alors le débit, et qui dépendra peut-être aussi de la technologie que vous utiliserez. Bon, sachant que dans un établissement, vous savez bien en plus qu'on est souvent obligé de faire de la plomberie, puisque votre station, surtout si elle est mobile, certainement va communiquer avec un réseau Wi-Fi, avec le réseau de l'établissement, qui lui-même va être connecté via la fameuse ligne vers le répondant. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de liens les uns avec les autres, et il va falloir le gérer. Alors, je vous ai mis ici, parce qu'il y avait des calculs qui avaient été faits par la DGOS, en l'occurrence dans un guide qui est très bien, qui donne un petit peu des indications sur les débits minimums qu'il convient de mettre en place quand on réalise ce type d'application, et notamment en fonction de l'utilisation que vous voudrez bien en faire. Alors, ensuite, quel logiciel? Alors, évidemment, sur le marché, il y a plein de fournisseurs, de stations, avec tout un tas de choses autour. Là-dessus, il n'y a rien à dire, tout va très bien. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, ces composants de télémédecine vont devoir communiquer avec le dossier du patient. Parce qu'à un moment donné, le compte-rendu, il faudra bien le déposer dans ce dossier du patient. Et là, on va commencer à avoir les problèmes de communication des logiciels les uns avec les autres et ce qu'on appelle l'interopérabilité, sur lequel je vais revenir après. Donc je vous rappelle que l'interopérabilité, c'est la capacité qu'ont des logiciels à communiquer les uns avec les autres. Donc il va falloir accéder au dossier du patient. Ça, en général, d'ailleurs, le médecin qui répond en a besoin, bien évidemment. Et puis après, il faudra déposer le fameux compte-rendu. Au passage, pour dire deux mots du dossier médical personnel, qui devient dossier médical partagé, comme vous le savez, repris par la CNAM, normalement, tout compte-rendu de télémédecine a pour vocation à être déversé dans le DMP. Donc ça suppose aussi que vous allez être en capacité de déverser ce compte-rendu ou un certain nombre d'éléments dans le dossier médical personnel. Ça laisse aussi supposer, et là c'est loin d'être le cas, que votre application est aussi DMP compatible, ce qui exige un certain nombre de caractéristiques que je vous inviterai à examiner quand vous mettrez ça en place. Ensuite, deuxième chose, c'est que souvent il y a des échanges entre les praticiens. Donc on a besoin de se parler, et donc la messagerie est tout à fait adaptée. Je vous rappelle qu'évidemment, dès lors qu'on parle de données de santé, la messagerie doit être sécurisée. Donc ça aussi, c'est une caractéristique importante, et il ne faut pas faire circuler des données dans des réseaux divers et variés ou des messageries sans qu'elles soient sécurisées, c'est-à-dire signées, authentifiées. Alors, également, on peut citer quand même, il y a des ARS qui fournissent des plateformes, hein, d'échange, qui peuvent être tout à fait utiles, et il faut aussi, bien évidemment, s'y intéresser. Alors, je reviens sur l'interopérabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur l'interopérabilité? Donc, ça va être la capacité d'un dispositif à communiquer avec les autres. Alors, malheureusement, on l'a à plusieurs niveaux. Si vous achetez un capteur qui ne peut pas se brancher sur votre système, ça ne va pas marcher, paraît bête. Donc là, on va être plutôt dans en matière de connexion sur l'interopérabilité technique. Après, il va y avoir peut-être des référentiels qui vont être utilisés, ça va être de l'interopérabilité syntaxique. Et puis après, il s'agit que les applications comprennent et récupèrent l'intégralité de ce qui est échangé. Et donc, il faut comprendre tout cela. Et donc, on a abouti à l'interopérabilité sémantique. Donc, les capteurs doivent être connectables sur votre dispositif, première chose. Donc, votre application de télémédecine, elle doit être capable de récupérer les données des capteurs. Bien évidemment, de façon sécurisée, on va y revenir après. Ensuite, il faut être capable de produire ce compte-rendu, et donc de le déverser dans le dossier du patient. Ce qui suppose que, là encore, votre application est en capacité d'échanger, et ça n'est pas si évident que ça, d'autant que il y a des formats réglementaires et d'autant que aujourd'hui, dès lors que vous échangez avec l'extérieur, je vous rappelle que vous êtes la loi vous oblige à utiliser l'identifiant national de santé calculé. La loi en préparation par Marisol Touraine, qui devrait intervenir au début de l'année prochaine, réautorisera apparemment le NIR, donc le numéro de la sécurité sociale qui est attribué à la naissance du patient. Mais pour l'instant, on est toujours sur l'identifiant national de santé. Après, puisque tout compte rendu doit aussi être déversé dans le DMP, il faut aussi que l'application soit DMP compatible. Alors j'attire votre attention là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'applications fournies par tout un tas de fournisseurs, bien évidemment, qui ne le sont pas. Et donc, quelque part, elles sont hors la loi. Donc c'est... Pour l'instant, c'est pas très contrôlé. Hein, enfin bon, votre ARS favorite peut être toujours, le cas échéant, vous le reprochez, il faut toujours faire attention à ça. Et puis attention évidemment aux connexions, le cas échéant, avec la messagerie, puisque de plus en plus on voit une intégration des applications avec les mécanismes de messagerie, hein, qui peuvent être branchés le cas échéant directement, et ça aussi, ça peut être intéressant. Sur la sécurité, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on pourrait en parler toute la journée. Bon, vous savez bien que la sécurité, il y a 4 volets. Il y a la disponibilité du système. Il doit pas, en gros, il ne doit pas tomber en panne. Ensuite, vous avez l'intégrité. S'il tombe en panne, vous ne devez pas perdre vos données et vous devez revenir à une situation de résilience. C'est l'intégrité. Ensuite, vous avez la confidentialité. C'est ce qu'en général, on comprend mieux en matière de sécurité. Donc, en clair, on ne doit pas pouvoir voler des données abusivement, bien évidemment. Et puis après, il y a la non-opposabilité, quelque part aussi la traçabilité de tout ça. C'est-à-dire que personne ne doit pouvoir changer ou triturer des données pendant que vous les envoyez sans que vous vous en rendiez compte. Et il doit y avoir une connotation de preuve associée à tout ça. Donc cette sécurité au sens large, elle doit s'appliquer évidemment à toute la chaîne. Parce que vous allez manipuler des données personnelles, en l'occurrence médicales. Donc là, vous savez que, y compris en matière d'hébergement, si vous stockez des données, si c'est chez vous, c'est très bien. Si c'est à l'extérieur, vous êtes soumis au décret hébergeur. Donc il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant, bien évidemment, et y compris au niveau des échanges sur le réseau. Voilà, je vous ai brossé un petit peu les points d'attention d'une façon générale, sachant que chaque projet a ses spécificités et qu'en fonction de ses spécificités, bien évidemment, il y a des points de détail sur lesquels il faut être encore plus vigilant. Mais bien évidemment, comme je sais qu'il y a des adhérents dans la salle, on est à leur disposition pour ce genre de questions. Alors, au-delà de ces grands principes, je crois que ça va être intéressant maintenant de voir comment ça se passe réellement, concrètement, au travers d'un beau projet réalisé.
Exactement. Donc, merci beaucoup Jean-François. Donc, on a compris, la télémédecine peut prendre plusieurs formes et c'est effectivement les objectifs, les usages qu'on en fait, donc qui commandent l'outil, l'équipement adapté. Et justement, Monsieur François Aubouin va nous présenter aujourd'hui un exemple. Quel choix avez-vous fait, vous, en tant qu'opérateur? Comment avez-vous déployé la télémédecine? Comment projetez-vous de la déployer?
Merci de nous avoir invités. Bonjour à tout le monde. On va effectivement essayer de vous présenter de la télémédecine gériatrique qui est mise en route. On va voir quelle école on a retenue, où est-ce qu'on a mixé les écoles. Je crois que c'est extrêmement intéressant. Pour vous présenter très rapidement, je suis donc le directeur général de la Mutualité française de l'Isère. C'est le mouvement mutualiste, je voulais rappeler très rapidement ces éléments-là. La Mutualité française est le premier acteur privé de la santé et de la protection sociale en France, puisque nous sommes la fédération des mutuelles complémentaires santé, de 95% des mutuelles complémentaires santé du territoire. On est un acteur majeur de l'économie sociale et solidaire, porté par des principes de non-lucrativité et par l'objectif d'offrir au plus grand nombre des soins de qualité et une protection sociale efficace. La télémédecine est rentrée dans ce processus de réflexion qui est le nôtre. Et pour ce qui est de la télémédecine, pour ce qui est de la Mutualité française Isère, nous sommes membres actifs de Génération Mutualiste, qui est notre fédération nationale et qui regroupe tous les établissements adhérents. Et la MFISAM est un réseau aujourd'hui d'une vingtaine d'établissements médico-sociaux, dont 12 EHPAD. Et donc le choix que l'on a fait, c'est de faire de la télémédecine entre une structure hospitalière et deux de nos EHPAD. On est une expertise gérontologique et médico-sociale d'avant-garde, puisqu'on a eu la première EHPAD qui est ouverte en 1967, que nous avons pratiquement que des médecins gériatres à nos côtés et qui sont tous en lien avec le CHU ou travaillant régulièrement avec le CHU de Grenoble et avec nous, et que nous avons commencé à expérimenter la télémédecine depuis 2012. On appelle notre télémédecine Télémut 38. Alors, on est initiatrice et porteuse d'un projet mutualiste régional de télémédecine gériatrique en Rhône-Alpes. C'est-à-dire que l'expérience que je vous propose, on est en train de la démultiplier aujourd'hui avec la mutualité de l'Ardèche, la mutualité de la Loire et la mutualité de l'Ain. La mutualité du Rhône va suivre aussi dans peu de temps. Donc c'est issu d'un travail régional et un partenariat avec la clinique universitaire gériatrique du CHU de Grenoble, avec le professeur Couturier, qui est pionnier de télémédecine en France, puisqu'il a fait des publications en 1995 sur la question de la télémédecine. Là, on commence à rentrer dans le cœur du sujet. La télémédecine n'existe pas si on n'a pas créé un réseau qui doit pouvoir répondre à des questions, à des besoins repérés. Donc, la mutualité française est initiatrice du projet pour de la télémédecine gériatrique. On a essayé de définir un projet médical et on a essayé de trouver le partenaire qui va nous permettre de nous amener l'expertise dont on a besoin au bout de l'autre partie de l'appareil. L'objectif, donc, c'était de mettre en lien les EHPAD mutualistes avec les experts du CHU pour améliorer l'accès aux soins et le suivi médical des résidents et des habitants du bassin de vie. On va voir le lien aussi avec l'importance du domicile. On va essayer de vous expliquer comment on a essayé et comment on essaye de rayonner au-delà même de l'EHPAD. Faciliter le triage des urgences traumatologiques. Ça, c'est un projet spécifique qui demande aussi du matériel spécifique. Est-ce que l'on pourrait avoir des appareils radio ou pas au sein de l'EHPAD et quelles sont les conditions de mise en place? Voilà, ça, ce sont des questions qu'on n'a pas encore résolues pour la question de la radio. Réduire le recours à l'hospitalisation, notamment en urgence. Alors, on pense souvent que la télémédecine est intéressante pour tout ce qui est du monde rural. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, pour prendre Grenoble, pour aller de la plupart de nos EHPAD au CHU, un vendredi ou aux horaires de pointe de déplacement pour aller au travail et pour rentrer à domicile, c'est aussi infernal que si on essayait de faire venir quelqu'un du plateau du Vercors ou du plateau de la Chartreuse pour venir au CHU. Donc la télémédecine peut avoir un véritable recours en zone rurale, mais aussi en zone citadine, puisque la question des déplacements et du recours à l'hospitalisation est extrêmement compliquée. Diminuer aussi les effets iatrogéniques et les coûts liés au transport et à l'hospitalisation. Je rappelle quand même que l'on a régulièrement, et c'est le plus souvent en période d'été, des personnes qui sont passées par les urgences et qui reviennent avec des SAMR ou qui reviennent déshydratées des 48 heures qu'ils ont passées aux urgences. Donc il y a un véritable enjeu iatrogénique et aussi, bien sûr, sur les coûts et les conditions de transport. Soutenir et renforcer l'expertise gériatrique dans les EHPAD. Il est évident que dans toutes les structures hospitalières, mais tout au moins celle du CHU de Grenoble que je connais en particulier, le soutien et l'étayage de l'expertise gériatrique et des spécialités gériatriques qui existent autour de la clinique sont extrêmement importants. Le tout, l'objectif, améliorer la qualité de vie et la qualité de santé des personnes âgées que l'on reçoit. À ce jour, on a 2 EHPAD équipés depuis mars 2014. On a fait le choix de salles fixes. Alors, pour commencer à répondre à ces questions d'école, on a fait le choix d'avoir des salles fixes parce que on va faire de la téléconsultation. Et ce que l'on a estimé avec les médecins du CHU, avec les médecins de la mutualité, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire une téléconsultation complète dans une chambre à l'EHPAD, parce qu'elle fait 20 mètres carrés au maximum. Je vous laisse imaginer au domicile, on a des chambres qui font parfois 12 mètres carrés dans lesquelles on a toute l'installation de la personne pour qu'elle puisse vivre. Donc c'est parfois un peu difficile. On aurait fait le choix de ne faire par exemple que de la télé-expertise. On pense qu'on serait allé sur du matériel mobile. Mais au-delà de la salle fixe que l'on a décidé de mettre en place, alors je ne reviendrai pas sur le matériel, on a fait choix d'un certain nombre d'écrans, de ceci, de cela, voilà. Mais au-delà de cette question-là, on a fait le choix par contre d'avoir des caméras, le stéthoscope, le CG qui sont mobiles pour pouvoir, quand il y a besoin, aller prendre au domicile de la personne les éléments dont on a besoin pour pouvoir faire de la télé-expertise parce qu'on ne va pas ne se contenter que de la téléconsultation. En fait, on sait qu'on fait beaucoup plus de télé-expertise que de téléconsultation. On a des connexions expérimentales qui sont entre l'EHPAD et le CHU réalisées, dans le cadre de ce qu'a déterminé notre collègue juste avant. On est en train de développer un logiciel de télémédecine gériatrique avec le CISRA et avec un opérateur qui a été choisi par le CISRA sur la région Rhône-Alpes. On est en phase de finalisation parce que ce que tu disais tout à l'heure, je me permets, ce que tu disais tout à l'heure est extrêmement important. Beaucoup d'expériences de télémédecine aujourd'hui se font par téléconsultation, mais on fait les comptes rendus à la main ou on fait les comptes rendus en asynchrone et on les envoie après. Ce que l'on a décidé, nous, avec le CISRA et financé par le CISRA et donc l'ARS, c'est de mettre en place des fiches, alors je ne l'ai malheureusement pas en plus gros, mais des fiches de liaison qui sont informatisées. Donc le médecin qui a demandé la consultation et le médecin qui fait l'expertise ont sous les yeux directement tout un système informatique de dossiers qui existe et on est en train de finaliser pour que ce dossier, une fois qu'il est rempli, il y a une signature qui se fait et il vient s'incrémenter automatiquement dans le dossier du patient à l'hôpital et dans le dossier du résident à l'EHPAD. Voilà. Donc c'est cet enjeu-là, effectivement, que ça soit même pas uniquement du PDF, hein, on est d'accord, parce que sinon on a des listes de PDF à ouvrir, mais c'est surtout que les données puissent venir s'incrémenter. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a tellement de logiciels qui existent que la question des incrémentations est extrêmement difficile. Alors, on a bien sûr une convention de télémédecine et un accord avec l'ARS Rhône-Alpes. Je rappelle que la télémédecine est un réseau qui doit être habilité par l'ARS pour pouvoir être mis en œuvre et qu'il doit répondre à un certain nombre de critères et légaux et techniques tels qu'on les a vus tout à l'heure. Je ne reviendrai pas dessus. Et donc, nous sommes là aujourd'hui en programmation de mise en place des consultations réelles, hein, officiel avec les résidents et les patients de la mutualité au premier trimestre 2015. On a fait le choix de ne pas faire d'expérimentation tant que l'on n'était pas sûr d'avoir expérimenté le matériel et les connexions, mais aussi d'avoir pu expérimenter la possibilité de faire des dossiers médicaux informatisés qui soient utilisables à tout moment. La MFISAM propose un nouveau rôle pour les EHPAD au regard de l'expertise gériatrique que l'on a sur les bassins de vie, puisqu'un EHPAD, c'est quand même une structure gérontologique et gériatrique posée sur un bassin de vie, mais aussi c'est la télémédecine qui, depuis 2 ans, nous fait travailler sur cette question-là. Et pour nous, les EHPAD sont en train de devenir des maisons de santé gériatrique de proximité. Les Suisses ou les Belges appellent ça de la médecine communautaire. La France rejette un peu ce terme-là. Je pense que c'est une erreur. Je pense que les Belges et les Suisses ont raison sur la terminologie. Pour être l'avant-garde et l'avant-centre des structures hospitalières, pour pouvoir servir d'expertise médicale, pour pouvoir aider les services d'aide à la personne. On est aussi en train d'expérimenter une équipe d'évaluation gériatrique à domicile pour travailler sur la question des fragilités et voir comment l'EHPAD et sa salle de télémédecine avec ses médecins peuvent aider les personnes qui sont à domicile à anticiper et à prévenir les difficultés qu'il pourrait y avoir. Et on a donc une équipe mobile d'accompagnement aussi qui travaille dans le cadre de l'aide aux aidants. Et bien sûr, on a des espaces d'accueil, d'activités et de rencontres. Tout ça pour dire l'EHPAD, pour la mutualité, aujourd'hui, n'est plus un lieu où on vient quand on ne peut plus être au domicile et qu'on a besoin d'un accompagnement spécifique. L'EHPAD, grâce à ses compétences, est aujourd'hui un centre avancé de premier recours. On voit, on est en train d'essayer de tester avec les urgences traumato à être un centre de tri, finalement, pour savoir s'il est nécessaire d'amener des personnes jusqu'aux urgences traumato ou pas. Donc, l'EHPAD n'est plus un EHPAD pour nous, mais une maison de santé gériatrique, en ouvrant l'expertise gériatrique à l'ensemble du bassin. La télémédecine a un rôle majeur dans cette ouverture, bien sûr, puisque du coup, on devient un lieu entre le domicile et l'hôpital, un lieu communautaire d'accueil et d'aide aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Soit en téléconsultation, et ça génère bien sûr possiblement un peu de déplacement, soit en téléexpertise asynchrone, on va prendre tous les éléments dont on a besoin au domicile, on les remet dans notre système informatique qu'on envoie aux spécialistes et qui donne une réponse a posteriori de cette question-là. Donc c'est autant pour les résidents de l'EHPAD que maintenant on est en train d'ouvrir pour les habitants du bassin de vie et on travaille de façon très étroite avec les associations d'aide à domicile. On a fait le choix, puisque nous sommes la mutualité, de faire avec les associations à but non lucratif, bien sûr, mais voilà où nous en sommes aujourd'hui sur ces questions-là. Donc, le soutien est à destination des résidents, de la population, par le biais des téléconsultations au sein de l'EHPAD, comme je disais tout à l'heure, la télé-expertise via les équipes mobiles, qui complètent les équipes mobiles extra-hospitalières, et sans oublier les équipes de soins et d'accompagnement de l'EHPAD, qui sont maintenant formées et qui sont devenues des spécialistes de la gériatrie et de la gérontologie pour pouvoir accompagner les personnes. En conclusion, le secteur médico-social est un acteur de l'innovation sanitaire. Il n'y a plus de barrière. Pour nous, il ne peut pas exister de barrière entre le sanitaire et le médico-social. Nous sommes en train d'essayer d'en faire la preuve. Les SAM, les services de soins mutualistes, sont devenus des intermédiaires entre la médecine ambulatoire ou la médecine communautaire et la médecine hospitalière. La télémédecine est un outil de renforcement et de diffusion de l'expertise gériatrique au sein de l'EHPAD et au sein du bassin de vie à domicile. Donc, je veux qu'on soit très clair, c'est une discussion qu'on avait eue, la télémédecine n'est pas une fin en soi. Ça n'est qu'un moyen complémentaire d'offrir des soins de qualité au plus grand nombre. Il n'empêche que quand il y a une téléconsultation, si le médecin doute, il va faire la levée de doute et on va transporter la personne chez le médecin pour qu'il puisse y avoir le palpé. On est d'accord? Il n'est pas question d'imaginer que la télémédecine serait en train de remplacer les consultations faites par le praticien directement dans son cabinet. Je viens d'anticiper ce qui était écrit. La télémédecine n'est pas une fin en soi, mais un outil. Voilà. Merci de votre attention. Il y a mes coordonnées pour ceux qui le souhaiteraient éventuellement. Et maintenant, à disposition pour un jeu de questions-réponses.
Voilà, tout
merci.
À fait.
Merci à tous.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Augouin, donc, pour cette mise en perspective de la mise en application de la télémédecine après avoir eu la grille des critères et la grille des questionnements à se poser pour mettre en place la télémédecine. Et puis merci aussi d'avoir partagé avec nous quelque part votre vision de l'évolution du rôle et des missions de l'EHPAD pour que ces derniers fassent peau neuve, parce que c'est effectivement des réflexions prégnantes qui ressortent au sein de notre réseau. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions, réponses, peut-être 5 minutes d'échange si vous voulez profiter de la présence de nos trois experts? Oui, très bien.
Oui, bonjour. J'ai travaillé, en EHPAD en tant que directrice, et à un moment donné, sur un territoire, on avait un peu le problème avec le sanitaire, parce que là, ce que vous nous brossez, c'est très très bien. Mais quid, on est entre nous, quid par rapport au niveau de la rémunération des médecins? Et lorsqu'on a des établissements sanitaires qui sont rémunérés à la T2A, la tarification à l'activité, donc je dirais que dans un monde, pour le bien-être du résident, et je suis entièrement d'accord avec vous, parce que c'est ça qu'on doit voir en premier, c'est-à-dire que je suis d'accord avec vous que la télémédecine, la téléconsultation, ce n'est que des moyens qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et tant mieux si on peut effectivement que ça sert effectivement au niveau du patient ou du résident. Mais quid, dans votre démarche de la répartition?
Alors, d'un point de vue financier, vous savez qu'il n'y a pas de nomenclature actuellement pour la rémunération des actes. Alors, on a de la chance, c'est que la mutualité française au niveau national nous finance à peu près 300 à 400 consultations, puisqu'on est tombé avec le CHU d'accord sur un équivalent consulte. Voilà. Alors, selon que c'est le professeur Couturier ou quelqu'un d'autre, c'est 69 ou 43. Voilà. Donc, on est parti sur cette base-là pour l'instant. Ça nous permet de faire l'expérimentation. Et on fait partie du comité de pilotage régional avec l'ARS sur tout ce qui est aujourd'hui l'informatique. Et les expérimentations de téléconsultation qu'on va faire, on espère, vont servir à créer une nomenclature pour le financement. Voilà. Après, c'est parce que là, on va... Donc nous, on est très contents de pouvoir faire ça comme ça, mais c'est parce que la France, aujourd'hui, est administrativement dans un retard et dans des reculs qui sont extraordinaires. On avait au dernier comité de pilotage, on avait la sécurité sociale qui était autour de la table avec nous. C'est d'une facilité déconcertante pour eux de décider que c'est 69 euros un acte, qu'ils le mettent en expérimentation pendant 3 ans et qu'on voit au bout de 3 ans. Voilà. Puisque nous, on a réussi à tomber d'accord avec le CHU sur 43 ou 69 euros de la téléconsulte. Donc voilà, c'est parce qu'on a encore des hésitations ou des craintes en France qui sont assez étonnantes.
Jean-François ou Catherine, vous voulez compléter?
Oui. Peut-être juste au niveau technique, il y a un dispositif qui est assez peu connu, mais qui est un petit peu astucieux. Donc, comme on est entre nous, je vais vous le livrer. Il y a un fournisseur, mais vous le trouverez facilement sur Internet, qui, en gros, si le répondant est un médecin libéral, par exemple, il y a un moyen de générer une feuille de soins électronique. Puisque, en fait, quand vous allez chez votre médecin et que vous générez une feuille de soins électronique avec lui, qu'est-ce qui est demandé ? Ben, il faut qu'il y ait la consultation, que le médecin soit là. Mais il n'est pas dit que le médecin doit être à 50 cm de vous, 1 mètre, 50 mètres ou 10 km. Donc, partant de ce principe, en fait, on peut ruser légèrement et il y a des fournisseurs qui mettent en place des systèmes comme ça, acceptés par l'assurance maladie. Voilà. Mais c'était entre nous.
Alors, en complément, le sujet que vous avez soulevé, c'est le vrai sujet de frein à télémédecine, puisque des répondeurs sur le principe on en trouve, mais tout de suite quand on essaye de construire le projet, ils disent oui, mais moi du coup je vais être moins actif et ma T2A, et si j'envoie moins aux urgences et mes forfaits aux urgences. Donc le modèle économique et le financement des établissements aujourd'hui n'est pas de nature à développer ces actions. Mais cependant, il faut quand même y aller parce que c'est une vraie nécessité, c'est un vrai projet d'équipe et que on va de toute façon trouver forcément des solutions de financement. Alors dans les procédures de financement aujourd'hui, il y a toujours évaluation médico-économique, validation par l'HAS puis par l'assurance maladie. Ça prend du temps. C'est pour ça que les expérimentations qui sont lancées, auxquelles certains d'entre vous peuvent peut-être déjà se raccrocher, il faut les identifier dans vos régions. Ces expérimentations-là sont parties pour 4 ans. Et on espère quand même qu'il n'y aura pas 4 ans pour décider d'articuler les modes de financement télémédecine avec les modes de financement des établissements aujourd'hui.
Une autre question peut-être ? Non, parfait. Donc est-ce qu'on a rempli notre mission de vous dresser le portrait de la télémédecine, en quoi elle consiste et quels besoins et usages elle peut répondre, et puis également à quelques enjeux stratégiques aujourd'hui de santé publique auxquels elle répond également, tels que ceux de la prévention, de l'accès aux soins. Vous avez cité également l'évitement des hospitalisations. Et puis derrière, voilà, on a également vu quelque part la diversification de l'offre de certains opérateurs tels que les EHPAD grâce à un rayonnement hors les murs jusqu'au domicile des personnes et la mise à disposition un peu des compétences de l'EHPAD auprès des opérateurs du domicile. Donc merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup à nos intervenants.